Vous écoutez
RMC. RMC, en route pour Paris 2024.
Et j'accueille Nicolas Pelletier, qui est un peu notre couteau suisse. Il est capable de tout faire. Il est capable de porter la flamme à Olympie il y a quelques jours. On en parlera tout à l'heure. Il est capable, évidemment, de suivre les matchs de foot. Et il est capable de nous parler de ce nouveau scandale qui est donc tombé ce matin, Nico, à savoir qu'une bonne délégation de nageurs chinois...
23 nageurs.
23, c'est pas rien. Ça fait une belle bande. Aurait été contrôlé positif. Donc, un produit interdit.
La trimétazidine.
Voilà. Et malgré ce contrôle positif, eh bien, ils ont été autorisés à participer aux Jeux de Tokyo en 2021. Ils ont été protégés à la fois par les autorités chinoises, mais également par l'Agence mondiale antidopage. Et c'est là qu'on est un peu plus surpris.
Exactement. C'est une enquête du New York Times et de la chaîne allemande ARD qui sera publiée ce week-end. Donc 23 nageurs chinois qui auraient été contrôlés positifs en 2021 sans être inquiétés. Et certains ont pu participer aux Jeux de Tokyo et y glaner des médailles. C'est ça le plus surprenant. Donc l'Agence mondiale antidopage aurait été au courant de ces cas et aurait pu couvrir certains de ces cas. Alors on va vous expliquer comment ça s'est passé. C'est que le rapport a été mené par le ministère chinois de la sécurité publique et il suggère une suspicion de dissimulation d'échantillons de dopage positif à la trimétazidine, des modulateurs hormonaux et métaboliques déjà en cause dans plusieurs affaires. Et donc parmi ces nageurs figurent plusieurs champions olympiques de Tokyo 2021. Alors la Chine a justifié ces cas de dopage dans son rapport en indiquant une contamination par la nourriture qui a été préparée pour tous les athlètes. Le rapport chinois indique que ces enquêteurs ont inspecté 2 mois plus tard la cuisine et ont trouvé des traces de la trimétazidine dans la hotte de la cuisine. Et c'est un peu ce que dit l'Agence mondiale aussi antidopage, qui n'a pas été en mesure de mener une enquête de terrain en Chine parce qu'il y a eu le Covid, donc ils n'ont pas pu envoyer des enquêteurs sur le terrain. Et donc Lama a conclu qu'elle n'était pas en mesure de réfuter la possible... contamination.
On n'a pas pu prouver.
Exactement. Donc, on est un peu dans le flou complet dans cette histoire. Et donc, ça fait.
Ce qui est marrant, c'est qu'habituellement, dans les affaires de dopage, ce sont les supposés dopés qui doivent prouver qu'ils n'ont pas pris.
Et il y a aussi un élément plus surprenant. Et il y a un élément plus surprenant aussi du New York Times qui indique que la Chine a transmis les informations dans le logiciel dédié pour signaler les faits, mais sans pour autant indiquer que les tests étaient revenus positif. Donc aussi, il faut voir que la Chine n'a pas tout signalé dans ce dossier. Donc, ça sera vraiment un dossier à suivre juste avant ces Jeux à Paris.
Et le patron de l'agence antidopage américaine, Travis Tygart, évidemment très connu dans le monde de l'antidopage, considère qu'il s'agit de révélations choquantes et d'un coup de couteau dans le dos de tous les athlètes propres. Selon lui, l'affaire sent le maquillage au plus haut niveau de l'AMA, l'agence mondiale antidopage. Alors, pour essayer d'en savoir un peu plus et surtout pour avoir sa réaction, eh bien, on est en ligne avec le président de la Fédération française de natation, Gilles Sézionnal, qui est avec nous. Bonjour, président.
Bonjour.
Alors, président, est-ce que vous étiez au courant de cette histoire ou vous tombez des nues, un peu comme tout le monde aujourd'hui? Et est-ce que ça avait fuité, cette histoire de 23 nageurs chinois contrôlés positifs à une molécule, que vous pourriez m'expliquer? Parce que on rappelle que vous êtes pharmacien de profession, de métier. On ne sait pas trop d'ailleurs si cette molécule est particulièrement dopante parce qu'elle a été un coup autorisé, un coup elle ne l'est plus. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus déjà là-dessus, ou si vous avez des infos, je ne suis pas sûr.
Alors, j'étais comme vous. Enfin, moi, j'ai pas eu évidemment d'informations avant ce matin, les publications dans les différents médias. Au niveau de World Aquatic, dont je suis membre du bureau, on n'a pas eu d'informations non plus. On n'a jamais eu. En général, de toute façon, l'AMA, ça se traite indépendamment, donc on n'a pas à avoir d'informations. La trimétazidine, c'est une substance évidemment qui est dopante dans le sens qu'elle peut accroître les performances, notamment sur l'endurance, et c'est quelque chose qui est connu. Moi, je voudrais simplement relever que, par exemple, dans le cas du patinage, la Russe a été suspendue.
4 ans, je crois.
Pour 4 ans. Alors que la première fois aussi, ils avaient argué d'une contamination extérieure. et que ensuite l'AMA a fait appel et ils ont obtenu donc la suspension de cet athlète. Aujourd'hui, dire que 23 athlètes chinois, bon après, comme vous l'avez très bien dit, pas toutes les informations ont été remontées par l'agence chinoise à l'AMA, donc il faut être un petit peu prudent là-dessus aussi par rapport à ce qui a été remonté ou non par l'agence chinoise, parce qu'il faut savoir que l'AMA en fait s'appuie sur les différentes agences nationales. Donc on peut effectivement se douter qu'il y a, à mon avis, hein, encore une fois, on peut pas affirmer des choses, mais c'est vrai que certainement l'agence chinoise a couvert des cas de contamination. Mais après, c'est vrai que comme vous le dites, et moi j'ai un exemple très récent qui est à peu près à la même date, parce que ça peut arriver effectivement une contamination extérieure. Un nageur français, c'était pas du tout un champion du monde, c'était au niveau des juniors, qui a été positif à une contamination. Il a été suspendu immédiatement. Et au bout de 2 ans, il a été blanchi. Mais automatiquement, sanction, elle tombe. Ça, d'ailleurs, on peut quand même arguer qu'à l'époque, ce jeune nageur, qui était évidemment en pleine évolution de sa pratique, ben il a arrêté, parce que du coup il a attendu 2 ans d'avoir le résultat négatif et qui a été reconnu comme une contamination. Mais à l'époque, toute l'équipe de France qui était avec lui, il y a eu un seul cas de contamination.
C'est un peu deux poids deux mesures. C'est un peu deux poids deux mesures en fonction des cas. Évidemment, là, il y a tellement de cas de nageurs chinois, ça aurait signifié s'attaquer presque à l'empire du milieu de les accuser d'avoir 23 dopés, quoi, en gros.
Après, vous savez, je suis en plus de pharmacien, j'ai été entraîneur. Quand on voit certains athlètes, les performances qu'ils font encore récemment, où il y a un nageur de demi-fond qui bat le record du monde du 100 mètres nage libre. Enfin bon,
Il pisse violer, comme disait Camille Lacour, il pisse violer tous ces nageurs chinois, président.
On a le cas de Song Yang qui avait après éclaté des fioles à coups de marteau pour pas qu'il puisse y avoir d'analyse. Lui aussi a été suspendu. Mais aujourd'hui, en fait, il a raison au niveau des États-Unis pour hurler, parce que à un moment donné, ça jette à l'opprobre sur l'ensemble des athlètes. Et puis après, on peut devenir que suspicieux par rapport à ses performances. Et ça, c'est vraiment pas bon pour l'ensemble de la discipline.
Ouais, bien sûr. D'autant que c'est pas la première fois qu'il y a des soupçons quand même concernant la natation chinoise. On se rappelle qu'il y a quelques années.
Ils ont été suspendus 4 ans.
Voilà.
Il y a une époque. Et donc c'était quelque chose qui n'était jamais fait. Là, on peut espérer. Honnêtement, moi, ce que j'espère, c'est que toute la lumière soit faite et qu'à travers ce scandale qui sort par en fait un média qui a fait l'enquête, c'est quand même assez extraordinaire. Je suis vraiment abasourdi, parce qu'il y a deux poids deux mesures. Moi, je vous dis, le seul cas qu'on ait eu, qui était à peu près à la même période, c'était un junior. Il a été suspendu à titre voilà. Et ensuite, on prend les mesures, comme vous l'avez très bien dit. Normalement, c'est à la personne de se justifier. C'est pas l'inverse, quoi. Ouais. Là, pouvoir blanchir 23 athlètes qui ensuite ont performé au jeu. C'est assez malvenu, quoi.
Bon, on a l'impression aujourd'hui que pour le monde de l'antidopage, il est de plus en plus difficile de convaincre et d'arriver à condamner certains athlètes, parce qu'évidemment, quand il s'agit comme ça a été le cas pour la Russie, d'une sorte de dopage d'État, on s'attaque à un pays, on s'attaque à des structures énormes avec des avocats qui peuvent faire tous les appels du monde. Donc c'est très difficile aussi de s'attaquer pour l'AMA, de s'attaquer à la Chine directement.
Bien sûr, il joue sur des vices de forme, mais il ne joue pas sur la réalité de l'athlète qui a été dopé ou non. C'est ça qui est un peu difficile à admettre. Après, moi, je peux vous dire que nous, chez nous, tous nos athlètes sont suivis avec le staff médical. On sait exactement quels produits ils prennent. Il y a des déclarations. On insiste à chaque fois sur les risques, effectivement, de contamination sur des produits qui n'auraient pas été très, très, on va dire, achetés comme ça. Donc, voilà, il y a vraiment un gros travail qui est fait. Franchement, il n'y a aucun souci sur l'équipe de France. Et encore une fois, quand ça peut arriver, parce que ça peut arriver une contamination extérieure, là, on ne comprend pas, parce qu'il y a deux poids, deux mesures. Parce que l'AMA, à l'époque, sur un simple junior, il a été suspendu 2 ans, ça a mis fin à sa carrière. Alors qu'après, il a été blanchi. Hein, donc, c'est un peu deux poids.
Lama explique qu'ils n'ont pas pu aller vérifier en Chine parce qu'on était à l'époque du Covid. Est-ce que vous avez peur justement que cette période où les contrôles finalement ont été complètement absents dans la plupart des pays, et notamment dans ces pays lointains où il était complètement interdit d'entrer, est-ce que vous avez peur que certains en aient profité justement pour utiliser des produits interdits qui pourraient avoir des conséquences aujourd'hui, quelques années plus tard?
Après, quelques années plus tard, c'est difficile à perdurer au niveau de l'effet positif.
En développement musculaire, par exemple,
qu'il y a des nageuses chinoises qui ont doublé de volume. Quoi. Donc, on n'est pas non plus aveugle et qu'on voit très bien, comme je disais tout à l'heure, quand vous avez des performances qui sortent dans un c'est doux, ça peut que jeter effectivement une histoire comme ça, ça peut que jeter la suspicion sur toutes ces performances, parce qu'encore une fois, la natation, ça se construit et ça se fait pas du jour au lendemain. Un athlète, il sort pas une perf de l'autre monde, c'est pas possible. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est ce qui me gêne le plus, c'est qu'on jette vraiment la suspicion sur les performances.
Alors, parmi les athlètes impliqués, et il y en a un que on connaît un peu parce qu'il sera et qu'il est l'adversaire direct de Léon Marchand, c'est Xun Wang qui a été champion olympique du 200 mètres 4 nages et qui talonne Léon dans les bilans mondiaux sur cette distance. On espère qu'il a pas gagné 2-3 secondes quand même depuis un an, président. Hein.
Encore une fois, oui, ça jette effectivement le doute et c'est malheureux que, encore une fois, moi j'arrive, il faudra qu'on ait les explications et on va les demander d'ailleurs. Mm-hmm. Comment se fait-il qu'il n'ait pas pris une mesure conservatoire de suspension? Ça tient pas debout. Encore une fois, normalement, la procédure fait que vous prenez une mesure et ils sont suspendus en attendant qu'ils prouvent leur innocence. Donc, qu'on les ait laissés à l'époque aller aux Jeux Olympiques et que maintenant on voit qu'ils sont toujours là, donc c'est à mon avis, il y a intérêt pour l'ensemble de nos disciplines que toute la lumière soit faite et qu'ils prennent des mesures, parce que c'est un énorme scandale.
Ce serait un scandale pour vous que ces nageurs positifs, alors sur les 23 positifs, il y en a 13 qui ont participé aux Jeux de Tokyo, est-ce que pour vous ce serait un scandale de les voir qualifiés pour les Jeux de Paris dans quelques semaines?
Encore une fois, je pense que normalement, la procédure aurait fait qu'ils aient été suspendus. Il ne peut pas y avoir deux poids, deux mesures. Pourquoi la patineuse russe a été suspendue? Pourquoi notre junior a été suspendu? Et voilà. Après, que l'enquête ait lieu, alors c'est vrai que c'était le Covid, ils ne pouvaient pas aller sur place, etc. Mais à un moment donné, il ne peut pas y avoir deux poids, deux mesures. Après, je pense que pour les Jeux, évidemment, il va y avoir des mesures très renforcées au niveau des contrôles.
Eh bien, nous verrons ça, affaire à suivre. Merci beaucoup, Gilles Sézionnal, d'être venu vous expliquer dans l'Intégral Sport sur RMC, la Fédération française de natation, sur laquelle on compte évidemment pour obtenir des médailles, plein de médailles lors des Jeux de Paris. Hein. On va être derrière vous à bloc et des belles médailles propres en plus. Merci, président.
Merci.
À très bientôt. Gilles Sézionnal, donc président de la Fédération française de natation. 14h22. Voilà pour cette histoire. Évidemment, si on a plus d'informations, on vous en dira un peu plus. On ne sait pas encore quelle date sera projeté le reportage de l'ARD, qui est la chaîne à la télévision publique allemande. 14h22. Dans un instant, on continue notre magazine olympique. On va accueillir Rémi Boulet, notre para séiste qui était lundi dernier la vedette, il était sur le plateau au Grand Palais à interroger le président de la République. Il va nous donner son sentiment sur ce moment étrange qu'il a dû vivre. À tout de suite sur RMC. Nous partons pour Olympie, nous partons au pays de la flamme olympique, au pays des Jeux Olympiques, où a donc été rallumée la flamme ces derniers jours. C'était à Olympie, mardi matin, et la flamme est donc partie pour un long voyage qui va la mener jusque chez nous. Dans quelques semaines, Nicolas Pelletier était là-bas, Vénard, à Olympie. Ça va, Nico?
Ça va, et toi?
C'était un beau moment.
Stéphane, on a Olympia.
C'était un super moment d'histoire que l'on a vécu avec Julien Richard mardi matin à Olympie. Apollon a d'abord joué à cache-cache, pas de soleil, et donc la grande prêtresse que vous entendez derrière moi n'a pas pu invoquer le dieu du soleil pour embraser son flambeau. On a donc dégainé le plan B pour allumer la flamme, une flamme de réserve allumée la veille lors des répétitions qui a servi à allumer la torche mère. Et toute cette cérémonie a été menée d'une main de maître par Nikos Aliagas, l'animateur franco-grec.
On a pris le temps, c'était pas un show télé pour moi, c'était, voilà, pour moi c'était quelque chose de plus intime, de plus personnel, qui était la somme de mes deux cultures, la France et la Grèce. Donc j'étais évidemment très honoré, ça rend plus humble d'être ici, dans un lieu qui a 2800 ans, 3000 ans d'histoire, et qui en a vu d'autres. Donc on est de passage et on fait notre petite part. Alors on met la petite pierre à l'édifice.
Nikos a raison, hein. Quand tu es là-bas sur place, tu ressens vraiment le poids de l'histoire. À la tribune, Thomas Barr, le président du Comité international olympique, a répété à plusieurs reprises le mot paix, la flamme, symbole de paix et de la trêve olympique. Mais l'image forte de cette cérémonie, c'est Laure Manaudou, championne olympique en Grèce à Athènes en 2004, qui a effectué le deuxième relais, un moment d'émotion pour l'ancienne nageuse.
Beaucoup d'émotions, j'ai l'impression de m'être arrêtée un peu dans ma tête quand je courais et de me dire ralentis déjà parce que tu vas vite et prends conscience de la chance que tu as d'être ici et d'avoir le symbole de la paix mondiale en ce jour dans les mains et toutes les valeurs du sport et de l'humanité aussi. Donc c'était à un moment donné, j'ai eu l'impression de m'arrêter dans ma tête et de profiter.
Le périple de la flamme olympique est en cours. En Grèce, elle a même pris l'avion cette semaine pour visiter les îles grecques. La passation à Paris 2024 est prévue vendredi prochain au stade panathénaïque d'Athènes avant d'embarquer sur le Bélème. Le lendemain, on vous fera vivre cet événement sur AMC. Puis direction Marseille, où la flamme débarquera en France le 8 mai devant 150 000 personnes. Et on ne connaît pas encore l'identité du premier porteur sur le sol français.
Il y a des noms qui sont murmurés, notamment celui de Zizou. Zinedine Zidane, évidemment. Alors, qui justement montera sur le Bélème avec la flamme olympique? On va peut-être poser la question à une jeune femme qui sera en Grèce dans quelques jours. Vous la connaissez. Elle est championne olympique. C'était en 2022 à Pékin. Championne olympique de danse sur glace. Et elle est elle aussi d'origine grecque. Gabriella Papadakis est avec nous. Bonjour Gabriella.
Oui, bonjour.
Bon, j'imagine que...
Merci de me recevoir.
Ah bah, on est ravis de t'avoir, on est ravis évidemment de parler avec toi de ce moment important, parce que à l'image de Nikos Aliagas, toi aussi tu as un peu cette double culture, tu es né en France, tu as toujours fait la compétition pour la France, mais tes parents sont d'origine grecque, ton grand-père je crois était un peintre célèbre en Grèce, et cette double culture, j'imagine qu'elle te tient au cœur.
Oui, alors non, mon grand-père n'était pas un peintre célèbre en Grèce.
Ah, j'ai lu ça,
par contre, il y a beaucoup de Papadakis, donc c'est sûrement un autre. À moins qu'on ne me l'ait jamais dit.
Alors mais... écoute, j'ai lu ça sur internet, un certain Yanis Papadakis, peintre réputé. Donc voilà, bah, je me suis fait avoir, j'aurais dû vérifier.
Ah bon, que ce soit un secret de famille, mais ça m'étonnerait. non, mon père est né en Grèce, oui, il a vécu en Grèce jusqu'à peu près ma naissance, donc oui, j'ai un peu la, évidemment, je suis beaucoup plus française que grecque parce que j'ai vécu en France, mais oui, en effet, j'ai quand même été proche de la culture grecque toute ma vie à travers mon père, donc c'est un beau symbole pour moi de venir porter cette flamme un peu dans mon pays d'origine.
D'accord. Donc comment ça va se passer? Tu y seras vendredi ou samedi prochain, c'est ça?
J'y serai vendredi prochain, oui.
Vendredi prochain. Donc est-ce que c'est toi qui vas monter sur le Bélème avec la flamme, Gabriella?
Non, c'est pas moi qui vais monter sur le Bélème avec la flamme.
Non. Non, j'imagine que vous êtes un peu tenu au secret. Tu dois connaître le nom des autres porteurs, mais que c'est un truc on vous a dit de ne pas tout dire, non, Gabriella?
Oui, en effet.
Bon. Est-ce que cet été, est-ce que l'été prochain, tu comptes aller voir les compétitions? Toi, tu es une athlète de sport d'hiver. Hein, on rappelle que tu as donc été championne olympique de danse sur glace. Mais quand on est athlète de haut niveau comme tu l'es, la fête olympique en France, ça va être un beau moment. Est-ce que tu vas en profiter?
Oui, ça va sûrement être un beau moment. Je sais pas si je serai sur place, mais c'est sûr que je vais regarder à la télé, je vais suivre la compétition, ça c'est certain, oui.
Ouais. Je crois que la Flamme Olympique passera également par Clermont, ce sera fin juin. Clermont, c'est ta ville de naissance. Est-ce que tu vas la porter une deuxième fois ou alors une fois ça suffit?
Non, malheureusement, je pourrais pas être à Clermont fin juin, mais ça aurait été très drôle de oui, en effet, pouvoir tenter la flamme à Clermont aussi, mais non, je vais m'arrêter à...
Tu vas t'arrêter à Athènes, ça suffira une seule fois pour la porter. Tu parles le grec, Gabriella, ou pas du tout?
Un petit peu, mais non, pas beaucoup. Apparemment, je parlais un petit peu plus quand j'étais petite.
Quand t'es, oui.
Mais je l'ai un peu perdu.
Et évidemment, quand tu le pratiques, c'est plus facile. Quand on ne pratique pas, oui. C'est difficile de se souvenir de tout ça. Gabriella, on en profite pour te demander de tes nouvelles, hein, parce qu'on se rappelle que après les Jeux de Pékin en 2022, eh bien, t'as décidé de faire un break. Où en es-tu de ta réflexion? On se demande toujours si vous allez reprendre la compétition, si vous serez avec Guillaume en lice pour les Jeux de Milan en 2026. Est-ce que tu as pris une décision à ce sujet-là ou c'est encore en suspens?
Ben, Guillaume et moi, on n'a pas encore pris décision, on n'a pas encore communiqué ce qu'on allait faire dans le futur. Donc voilà, pour l'instant, on continue de faire des spectacles et puis de s'amuser comme ça.
Ouais. Tu as vu que les Jeux allaient revenir en France en 2030 aussi, hein, Gabriella? Là, pour des jeux d'hiver, là, hein, 2030, c'est bien, c'est demain. 2030, c'est demain, c'est dans 6 ans.
Oui, c'est très proche.
Non, ça, c'est pas envisageable de
c'est,
vous voir.
C'est un peu loin, là.
C'est un peu loin, ouais. Oh, mais t'auras quoi? T'auras 30, 34, 35 ans, c'est ça? Bon,
ouais, c'est un peu loin. On verra.
Gabriella, est-ce que on a vu Laure mardi? Laure était un petit peu stressée avant de porter la flamme.
Ah oui, bah oui.
Est-ce que t'es un petit peu stressée avant de porter cette flamme vendredi prochain?
Bah alors, initialement, je ne l'étais pas, mais tout le monde me pose cette question.
Donc tu vas finir par l'être.
Je me dis peut-être que je devrais être stressée. Mais non, je me suis dit que... En fait, je me suis un peu dit que j'avais tellement de chance de pouvoir faire ça et d'être sur place et de vivre cette expérience-là. Et en fait, je n'ai même pas pensé aux difficultés ou si ça pouvait aller mal tourner. Pour moi, de toute façon, être sur place, même si je fais n'importe quoi, ce sera déjà génial. Donc ça ne fait pas trop stresser, ça va.
Il paraît qu'elle est difficile à allumer la torche quand on la passe de relais en
alors,
relais.
Alors, c'est pas que c'est difficile, mais c'est qu'on voit très peu la flamme sortir de cette torche. Donc, on peut penser qu'elle est éteinte et... Pourtant, elle était allumée et c'est un peu ce qui s'est passé sur le relais de Laure avec le relayeur suivant. On pensait qu'elle était éteinte, mais en fait, elle était parfaitement allumée. Donc voilà, il faut être très attentif à l'allumage de cette flamme.
Bon, on verra. Déjà, moi, je me brûle les doigts en allumant des bougies des fois. Donc, donc on est mal barré.
Ça va être beau, cette histoire. Ça va être sympa, dis donc. Tu sais qu'il ne faut pas l'éteindre, hein, Gabriella. Il faut faire gaffe quand même. Autrement, là, ça va pas. Hein. Ça peut faire un incident diplomatique. Bon, ben, écoute, on te souhaite un bon relais alors. Hein. Ce sera donc vendredi.
Ben, merci.
Elle ne veut pas nous dire si elle va monter sur le bateau ou non, qui aura à ses côtés. Mais voilà, en tout cas, ce sera la grande fête. On rappelle que samedi, la flamme montera à bord du BLM. Hein.
Alors, au pire, on va pas dire à Gabriella, elle sera dans les derniers relayeurs normalement de cette parade le vendredi. Mais en fait, c'est que le vendredi, le président du comité grec va remettre la flamme olympique au président du comité d'organisation, donc Tony Estanguet. Et c'est normalement, alors je m'avance peut-être, mais c'est normalement Tony Estanguet qui va la monter à bord du BLM le samedi matin.
C'est le patron qui est
pour partir.
C'est ce que j'ai entendu aussi, oui.
Voilà, d'accord. Vous voyez les informations.
Eh oui, voilà,
et donc Gabriella sera l'une des dernières relayeuses avant de passer au président du comité.
Donc elle est sous la férule grecque, elle n'est pas sous la férule du
la
comité d'organisation.
Je pense
français.
Que c'est ça.
Tu vois, ils ont privilégié tes origines grecques, Gabriella, et pas ta nationalité actuelle.
C'est vrai. C'est marrant.
Bon. Eh ben, on te souhaite un bon passage, un bon séjour en Grèce, et puis on espère te voir sur la glace bientôt, hein, en compétition, hein, Gabriella.
Merci beaucoup.
Fais-nous ce plaisir. C'était un tel bonheur de vous voir glisser sur la glace lors des Jeux de Pékin ou les Jeux en Corée 4 ans plus tôt. C'était magnifique. Merci beaucoup. 14h38 sur RMC. Dans un instant, on poursuit notre tour d'horizon de l'actualité olympique. On va discuter avec Rémi Boulet, qualifié donc dans l'épreuve de para canoë et qui la semaine dernière, a eu l'honneur, le redoutable honneur d'interroger le président de la République à l'occasion de l'émission que vous avez pu suivre sur RMC et BFM Télé. C'était lundi matin. Le président interrogé par les athlètes de la team RMC. À tout de suite. En attendant, nous poursuivons notre magazine olympique et on va accueillir l'une des stars de la semaine passée, puisque lundi dernier, il a eu l'occasion d'interroger le président de la République. C'était lors de l'interview qu'Emmanuel Macron a accordé à RMC et BFM Télé sur les Jeux Olympiques. Rémi Boulet, notre paracéiste qualifié pour les Jeux Olympiques, est avec nous, les Jeux Paralympiques plus exactement. Bonjour Rémi.
Bonjour la team.
Bon, on est ravis de te retrouver. Rémi, on rappelle que tu fais partie de la team RMC, qu'on suit ton parcours, ta préparation pour ces Jeux Olympiques. Alors, la qualif est en poche depuis bien longtemps, mais être athlète paralympique ou olympique permet aussi de vivre des moments incroyables. Comme cette interview que tu as donc réalisée du président de la République, c'était lundi dernier. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu t'es bien senti? Voilà, c'était un bel endroit magnifique, le Grand Palais, à tes côté Apolline de Malherbe, Marion Bartoli, David Douillet et face à toi le président de la République. Est-ce que c'était impressionnant ou il n'y a pas grand-chose qui impressionne Rémi Boulet?
Alors si, il y a des choses qui m'impressionnent. Non, c'était vraiment sympa, c'est vraiment un moment vraiment sympathique. Au final, on a eu froid, voilà, pour dire un peu les coulisses. Voilà, le Grand Palais aujourd'hui, il est encore en travaux, il est bientôt terminé pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Maintenant, là, il y avait le chantier encore qui se poursuivait. Donc il y avait pas mal de courants d'air et donc on a eu un petit peu froid. Ça c'est vraiment dans les coulisses pour vous dire. Mais sinon non, c'était vraiment moi j'ai vraiment aimé cette expérience de pouvoir interroger le président sans langue de bois. On avait c'était pas des choses ultra préparées donc c'était vraiment intéressant et j'ai aimé ses réponses. Honnêtement sur l'accessibilité, il a avoué qu'on n'était pas au rendez-vous, que ça coûtait quand même quelques milliards. J'ai préféré son honnêteté là-dessus. Ouais.
Oui, c'est vrai que tu l'as un peu coincé sur cette histoire-là. Il a reconnu que la France n'était pas à la hauteur du pari, justement, puisque on rappelle qu'il y aura quand même dans l'été et entre les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques 350 000 personnes à mobilité réduite qui vont donc venir à Paris. Et pour eux, comme pour toi, évidemment, l'accès à la plupart des stations de métro à Paris est impossible, hein, Rémi. Hein, et peu de choses ont été faites, sauf évidemment dans les stations nouvelles dont le président parlait, avec la ligne 14 qui est toute nouvelle et qui va encore s'agrandir et qui sera inaugurée dans quelques temps. Mais autrement, pour les vieilles lignes, évidemment, rien n'est fait pour les gens à mobilité réduite.
Exactement ça. Et puis en plus de ça, des fois même la ligne 14, il y a des soucis d'ascenseur qui ne fonctionnent pas forcément tout le temps. Donc non, c'est un petit peu honnêtement, en toute honnêteté, le métro parisien, c'est un peu une galère. Alors après, il a raison, hein, le fait qu'on a été précurseurs, les Parisiens, à créer le métro. Et qu'aujourd'hui, rénover, ça coûte des milliards. Maintenant, je pense qu'il faudrait vraiment mettre en œuvre ces milliards, en tout cas pour essayer de rendre la vie plus sympa, en tout cas pour toutes les personnes à mobilité réduite. Et puis faut penser aussi aux familles, les mères célibataires et les familles qui ont des poussettes. Avoir un ascenseur, c'est aussi cool pour pouvoir prendre le métro parisien aussi.
Évidemment, il y a aussi les mamans avec les poussettes qu'on voit galérer dans les couloirs du métro, dans ces escaliers d'un autre âge. Rémi, on a l'impression, et c'est plus qu'une impression, que tu connais le président de la République, il connaissait ton histoire, il vous en avait parlé tous les deux. À quelle occasion avais-tu déjà rencontré Emmanuel Macron?
Honnêtement, c'était rencontré avec le président Macron. Voilà, on a fait le duo des ensemble, on a passé 24 heures ensemble. Je l'ai rencontré au 14 juillet deux fois. On a fait où j'ai pu défiler sur le 14 juillet, plus deux autres fois où j'ai été on va dire dans les tribunes au 14 juillet. Donc oui, c'est vrai que l'autre coup, je me suis amusé à compter le nombre de fois où j'ai pu rencontrer le président Emmanuel Macron. Je pense qu'on en a dépassé les 15 fois. Donc quand même, ça fait un bon nombre. Donc oui, on se connaît ouais, assez bien. Il connaît très bien mon histoire. Et voilà, c'est pour ça que il aime bien, je pense, ma compagnie, parce que justement, il sait mon franc-parler. Et je pense que forcément, il y a toujours autour, tout le monde, tout est beau, vous savez, dès qu'il se déplace, tout est nettoyé, tout est toujours beau, etc. Mais moi, je dis les choses et je cache jamais les choses. Donc ça, je pense qu'il apprécie, honnêtement, mon honnêteté.
Et il paraît qu'il t'a invité à passer le reste de la journée avec lui après le Grand Palais. Enfin, tu l'as accompagné sur d'autres rendez-vous, c'est ça?
C'est ça? Ouais, carrément. En fait, après, il faisait la visite de la fin de chantier, etc. Puis après, il y avait une démonstration d'escrime. Donc, il m'a invité à passer la matinée avec lui. Donc, je suis resté quelques minutes, mais après, fallait que je parte parce que forcément, moi, il faut aussi que je m'entraîne. Là, ça tombait bien parce que c'était une journée où j'avais qu'un entraînement dans la journée. Donc, j'avais prévu l'après-midi, mais le temps de rentrer à Orléans, etc., manger. Pour après faire la sieste et après partir à l'entraînement, je pouvais pas me permettre de rester non plus trop longtemps. Donc la priorité étant les Jeux paralympiques de Paris 2024. Donc voilà. Mais après on s'était rencontrés 2 jours avant parce qu'il a fait une inauguration d'usine à Bergerac, Euranco. Et donc comme on passait par Bergerac, je lui ai signalé qu'on était là et donc on s'est salué à Bergerac le jeudi.
Bah c'est un pote en gros hein.
Oh, faut pas dire ça comme ça parce que ça reste le président de la République, mais en tout cas c'est une personne que moi personnellement j'affectionne. J'affectionne en fait parce que moi je vois un autre côté. Moi je vois la personne humaine. Je vois pas le président Emmanuel Macron que les Français. Si moi aussi je suis français, mais ce que je veux dire c'est que moi j'ai cette proximité avec lui et je vois vraiment. Ça reste quand même une personne qu'on peut aborder. Qui franchement se cache vraiment pas derrière les choses. Quand on lui pose des questions, il se défausse pas. Et moi, je trouve que c'est une très belle personne humaine. Je l'apprécie beaucoup, son franc-parler et son honnêteté. Donc moi, ça me fait plaisir de passer du temps avec lui.
Et voilà. J'imagine que lui aussi aime passer du temps avec toi, qui est en quelque sorte un symbole. On rappelle que tu as été para dans les forces militaires françaises, qu'aujourd'hui tu es un athlète français, donc tu es vraiment un représentant. Tu as été toujours un représentant de ton pays, un représentant d'élite. Donc j'imagine que pour un président, c'est important évidemment de pouvoir s'appuyer sur des gens comme toi. Rémi, parle-nous justement un peu de ta préparation. Où en es-tu? Ça se rapproche maintenant à grands pas. On rappelle que la qualif, elle est acquise depuis de longues dates. Où en es-tu maintenant dans ta préparation? Est-ce que tu progresses encore? Est-ce que tes chronos sont de mieux en mieux? Est-ce que tu vas pouvoir aller battre ce Hongrois qui nous fait peur?
Eh ben alors ma préparation, honnêtement, franchement, je m'entraîne vraiment très dur. Je cherche vraiment rien. Là, j'avais une petite semaine, cette semaine de repos où j'étais à la maison. Et là, je repars dès dimanche. Je repars en stage pour 15 jours. Après, j'aurai 3 jours à la maison et après je pars au championnat du monde. Donc on va pouvoir tout de suite voir mon niveau au championnat du monde. Donc ça me stresse un peu de savoir où j'en suis. Honnêtement, je pense que les chronos, ils commencent vraiment à être pas mauvais. Maintenant, en fait, ça veut rien dire un chrono parce que il suffit que la finale des Jeux paralympiques à Vers-sur-Marne, on a un gros vent de dos, on peut faire très bien, je peux gagner ou faire deuxième en 42 secondes, et aussi bien je peux gagner les Jeux en 53 secondes. Donc nous, on est quand même assujettis aux conditions météo, pas comme un nageur qui est tout le temps dans la piscine et puis qui il connaît son chrono, etc. Maintenant, en tout cas, vraiment, je me suis jamais autant entraîné, hein, comme je le dis tout le temps. Cette année, j'ai vraiment mis presque 40% de plus au niveau des entraînements. Pour vous donner un ordre d'idée, mes meilleurs mois en termes de kilomètres l'année dernière et les années d'avant, c'était 230 kilomètres. Ça, c'était mes meilleurs mois en termes de nombre de kilomètres sur le bateau. Et aujourd'hui, je suis à plus de 350 kilomètres. Donc, j'ai fait aujourd'hui, je suis à plus de 100 kilomètres de mes meilleurs mois de l'année dernière. Donc, franchement, j'ai vraiment mis la barre très haute. Maintenant, je continue. Hein, l'objectif étant d'aller chercher la plus belle place aux Jeux de Paris. Donc voilà.
Évidemment. Je regardais ces derniers jours un reportage sur toi où tu parlais de ce mur qui arrivait à 150 mètres, désormais qui arrive à 180 mètres, le mur lactique, c'est-à-dire que là où tes efforts t'es bouffé par l'acide lactique et où il est très difficile de faire encore des efforts pour aller franchir la ligne. Là aussi, le but c'est d'aller le plus loin possible avant que le mur t'atteigne, c'est ça?
Exactement, c'est ça, c'est vraiment ça. Il y a deux stratégies. Il y a ma stratégie première, c'est vraiment d'aller chercher la vitesse maximum que j'aurais jamais encore réussi à franchir. Donc avec ça, on cède. J'utilise une turbine qu'on vient mettre sur le bateau. Mm-hmm. Ça me permet d'aller en survitesse. Par exemple, moi, ma vitesse maximum en course que j'ai atteint, c'est 18 km/h. Avec la turbine, j'arrive à monter à 20 km/h. ça me permet de trouver des automatismes et une vitesse d'exécution supérieure. Donc ça, c'est plutôt cool, c'est un bon travail. Et maintenant, ça va être vraiment au jeu de Paris d'aller chercher un 18.3, 18.4 km/h. Pour moi, ça serait vraiment une vraie satisfaction. Et après, de garder cette vitesse au maximum. Et après, atteindre le mur à 170, 180 mètres. Parce que si j'atteins le mur à 180 mètres et que j'ai réussi à monter à 18.4, honnêtement, ça voudrait dire que je suis, en termes de performance, ça ferait un très bon chrono. Et qui dit bon chrono dit certainement une place plutôt correcte.
Voilà. Ah, c'est quoi la place correcte pour toi? C'est la deuxième ou la première?
En toute honnêteté, ça serait deuxième. Ça serait pour moi une place très correcte. Je serais très satisfait avec une deuxième place, ça c'est sûr. Maintenant, voilà, moi je travaille pour la médaille d'or. Donc forcément, même si je faisais deuxième, je pense qu'il y aura une déception, certaine. Mais voilà, faut pas non plus se mentir. Le Hongrois, on sait qu'il est très fort.
Et en plus, il est tout jeune, c'est ça, Rémi? Je crois qu'il a 20 ans à peine.
Ouais, il a 20 ans à peine. Il est beaucoup moins handicapé que moi. En plus, comme c'est une maladie de naissance, je dis pas de bêtises, lui, il a pas développé ses jambes. Ce qui veut dire qu'en fait, ses jambes sont beaucoup moins lourdes que moi. Moi, je suis un ancien marchand. Donc, ce qui veut dire que mes jambes, j'ai perdu du poids au niveau de mes jambes, comme je les utilise plus. Mais j'ai encore du poids. Et alors que lui, comme il n'a pas développé ses jambes, peut-être en schématisant, il a peut-être 10 kilos en moins dans le bateau que moi. 10 kilos, c'est quand même, à chaque coup de pagaie, c'est quand même important.
Bien sûr que c'est important. C'est très difficile dans les épreuves paralympiques d'avoir une équité parfaite entre les athlètes selon leur degré de handicap. C'est quasiment impossible que l'équité soit respectée totalement.
Exactement. Non, c'est impossible. C'est pour ça que c'est le jeu, quoi, on va dire. Mais c'est impossible d'avoir une équité parfaite. Là, bon, le Hongrois, c'est vraiment, honnêtement, j'aime pas faire des polémiques, mais clairement, il devrait pas être dans notre catégorie dès qu'il est arrivé au niveau ranking mondial, il a battu tout le monde. Des gens comme moi qui s'entraînaient depuis 6 ans, le Brésilien qui s'entraîne depuis 8, etc., etc. Donc voilà. Maintenant, c'est la vie. Je me dis, je m'arrête pas à ça. Je me dis, je peux réussir à le battre si j'ai une belle stratégie. Si vraiment j'arrive à aller chercher ce 18.5, pour moi ça serait magnifique. Et je me dis qu'en fait c'est ce que j'ai un peu fait à la Coupe du Monde. À la Coupe du Monde à Paris, j'ai dit écoute, je vais tout donner. On verra le mur si on se le prend à 150 mètres, c'est pas grave. Mais en tout cas, on va voir la stratégie de vraiment tout donner et de le surprendre. Et j'ai réussi à le faire et j'ai réussi à être devant lui presque 150 mètres, j'étais devant lui. Et après, il m'a rejoint, il m'a doublé sur les 50 derniers mètres. Donc la stratégie, ça va être ça. Ça va être.
T'as dû avoir envie de le couler quand même derrière, non? T'avais pas envie.
Ah ouais, c'est sûr. Mais bon, après, je me dis, ça reste un sport. Il faut savoir être fair-play. Surtout, il faut savoir ne pas se doper comme les Chinois, pour réussir et puis pour pouvoir se regarder aussi dans un miroir, hein, parce que moi j'ai une conscience et je veux avoir la conscience tranquille, me dire que tout ce que j'ai réussi à faire, je l'ai fait sans tricher, quoi.
Eh bien, écoute, on te souhaite de le battre à la régulière, ce Hongrois. On te souhaite évidemment la plus belle des médailles, mais une médaille olympique, ce serait déjà parfait. Est-ce que le président va venir te voir, Rémi, ce qui t'a fait la promesse?
Bien sûr. Le président, il sait qu'il est obligé de venir me voir. maintenant, faut que j'invite aussi Gabriel Attal à venir me voir, notre premier ministre. Mais en tout cas, non, le président, c'est sûr qu'il sera là. Ça, j'en suis certain là-dessus. Quand il donne sa parole, honnêtement, il la respecte. Il faudrait vraiment un fait majeur politique pour qu'il ne soit pas là. Mais en tout cas, je pense qu'il sera vraiment là.
On rappelle le jour de ta compétition, Rémi, pour tous ceux qui auraient envie d'aller à Vaires-sur-Marne, justement, pour assister à cette compétition de para canoë en sprint, 200 mètres, on rappelle.
Ça se dit para canoë en international. Et ça sera le 7 septembre, donc au matin. L'avantage pour moi, c'est que, et pour les gens, pour leur donner envie de venir me voir, c'est que vous venez le matin, c'est entre 9h et midi, le 7 septembre, c'est un samedi matin. Et en plus de ça, ma course ne dure que, si tout va bien, 45 secondes. Donc ça peut aller très vite. Vous n'aurez pas trop de temps à attendre pour le savoir et connaître mon résultat.
On compte toutes ces années de travail pour 45 secondes. C'est fou, quoi. C'est dingo.
C'est 4 ans de travail, mais maintenant, on va dire 9 ans de travail pour 45 secondes, ouais.
Merci, Rémi.
Pas le droit de se louper.
Ah bah non.
Pagayer, vraiment, je sais que j'ai pas droit à la moindre erreur. dès le départ, il faut que je sois au rendez-vous et le moindre coup de pagaie doit être présent, quoi.
Eh ben, on te souhaite plein de bonnes choses, bonne fin de préparation. On te rappellera d'ici les Jeux, évidemment, hein, pour prendre de tes nouvelles. Merci Rémi, à très bientôt.
Merci à vous, à Team RMC.
Rémi Boulet, membre de la Team RMC, donc athlète, superbe athlète, ancien parachutiste, et aujourd'hui il est paracéiste et il va donc disputer les Jeux Paralympiques en septembre prochain.